Europe 1. Europe 1, Culture Média.
9h30, 11h.
Thomas Hill.
Merci beaucoup d'être là pour la suite de Culture Média. Nos deux indispensables du jour nous ont rejoint. Héloïse Goua pour les séries. Salut Héloïse.
Salut Thomas, bon retour, bonne rentrée.
Merci beaucoup, mais je suis moins bronzée que vous, Héloïse.
Elle triche.
Je me sens pas ski quand même. Quand même une équipe de bronzés là.
C'est vrai.
Sébastien Bordona aussi.
Il pèle.
Oh là là, moi aussi je pèle. Il le pèle et il nous parlera de bande dessinée tout à l'heure, on le précise quand même, merci. Et puis alors j'ai la chance de recevoir ce matin une grande comédienne, Virginie Ledoyen, bonjour.
Bonjour.
Et ainsi qu'un grand auteur de polar, Alexis Lepsker, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, votre roman Alexis le mangeur d'âme a été adapté en film avec Virginie Ledoyen dans le rôle titre, on va en parler dans un instant. Mais d'abord les présentations, c'est la tradition ici, des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier.
Vivre sa vie.
C'est Frédéric Goldman Jones, vivre sans vie, parce que c'est un peu votre point commun finalement à tous les deux. On s'est dit vous vivez sans vie. Alexis Lepsker, vous venez en tant qu'écrivain aujourd'hui, mais vous êtes aussi directeur d'hôtel, directeur de casino, joueur de poker, journaliste, communicant, animateur télé, scénariste. J'ai oublié un truc peut-être.
Tout ça à la fois, c'est impressionnant.
Vous vous ennuyez vite dans la vie?
Oui, c'est vrai en plus.
C'est vrai?
Je m'ennuie vite, il faut que je remplisse le vide, absolument.
Donc c'est fou toutes ces casquettes quand même.
Bah c'est ce qui m'a permis d'écrire, notamment.
Ah oui.
Ouais.
De vivre toutes ces vies-là.
Ouais, exactement.
Et puis vous, Virginie Ledoyen, c'est une banalité de le dire, mais être actrice, ça permet aussi de vivre pas mal de vies différentes. Et il paraît que vous aimez mentir aussi dans les interviews que j'ai lu ça. Pour embellir un peu les histoires.
Je sais pas si j'aime mentir, mais en fait oui, c'est-à-dire que faut bien un petit peu réinventer de temps en temps,
oui,
donner
oui.
un petit peu de,
on pas dire
oui,
tout le temps la même chose,
parce que moi hein. je ne dirige pas de casino, je ne suis pas joueur de poker, je ne suis
faut
pas
s'inventer un peu des vies. On va essayer de pas se faire avoir aujourd'hui. En tout cas, vous avez commencé ce métier très jeune. À l'âge de 10 ans, Virginie Ledoyen, vous étiez dans ce clip, hein, Sauver l'amour de Daniel Balavoine. Mais alors, je crois que c'est un clip qui a été. Oui.
Ah, mais incroyable, mais on va aller le revoir.
Alors, je suis allé le revoir, d'ailleurs, voilà, c'est à titre posthume, donc il n'y a pas Daniel Balavoine. Vous l'avez jamais rencontré?
Non, je ne l'ai jamais rencontré. J'étais tellement heureuse de. J'adorais Daniel Balavoine quand j'étais enfant. Et puis, en plus, il avait une valeur. Voilà, il organisait plein de choses dans les écoles, on collectait de la nourriture, enfin c'était... Voilà, symboliquement, il était important. Et donc, quand on a tourné ce clip dans une décharge à la Courneuve, qui faisait un petit peu hommage à Mad Max, c'était quand même, au-delà du plaisir de jouer dans un clip, c'était Daniel Balavoine.
Ouais, ouais. Et on vous reconnaît hein, dans le clip, moi je suis allé le revoir.
Ah
oui, oui, alors c'est furtif.
Hein. C'est furtif.
mais on vous retrouve. Et alors, première photo, j'ai vu ça pour une pub à l'âge de 16 jours.
Je me souviens très bien.
Oui,
un bon souvenir. Comme si c'était hier.
C'était pour une banque, voilà, pour des prêts
Absolument.
Bancaires.
Voilà, voilà. Voilà.
Et puis à 3 ans, vous jouez dans des pubs. Au départ, il paraît que c'est un peu le fruit du hasard, mais j'ai l'impression que tout le monde dit ça à chaque fois. Ah, j'ai commencé à jouer, mais.
Pour le coup, c'est vraiment le fruit du hasard.
Bon, à 3 ans en même temps, on décide pas trop.
Et à 16 jours encore moins. non, mais c'était mes parents qui font absolument pas ce métier. Ma mère avait une copine dont les enfants faisaient des photos, et puis elle m'a amenée sur un plateau pour me présenter bébé. Il manquait un bébé ce jour-là, et le photographe m'a photographiée. Puis ensuite, il appelait de temps en temps ma mère pour des séances. Ça amusait, ma mère. Et puis, de casting en casting, les choses se sont faites comme ça.
Et quand est-ce que vous êtes dit vraiment, je veux devenir actrice?
À
quel âge,
16 jours.
À peu près
17. En fait, j'ai. Petite fille, je trouvais ça très, très rigolo, très récréatif. J'avais très, très envie d'être actrice, mais je pensais que c'était pas du tout un métier.
Ouais.
Parce que j'adorais, parce que je voyais plein de monde tout le temps, parce que j'avais des costumes, du maquillage, des choses à dire, des choses à faire et tout ça. Et donc, ça me semblait totalement impossible que ce soit un travail. Pour moi, le travail, c'était vraiment dur, quoi, laborieux, compliqué, un truc d'adulte. Et donc, je le mettais vraiment de côté. Et puis, je crois que vers plus tard, donc vers 16-17 ans...
Vous vous êtes dit, ça peut être pas
je
mal.
Je me suis dit, En fait, j'ai arrêté de dire que je ne vais pas être actrice. Je ne sais pas si ça marchera, mais c'est ce que je veux faire.
Et ça a plutôt pas mal marché. extrait suivant, écoutez ça.
«
Est-ce que vous vous souvenez de ce générique, Alexis Lebsker?
Non.
Non, c'est la Maison du Bluff.
C'est vrai.
Une télé-réalité sur le poker d'Énergie 12 que vous co-présentiez, parce que parmi toutes vos casquettes, hein, voilà, vous êtes l'un des plus grands spécialistes du poker en France. Ça a été le cœur de votre métier, même pendant longtemps, le poker.
Mais ça l'est toujours, puisque je dirige un club de jeu à Paris, le Club Circus.
Et comment le poker vous a conduit un jour au polar, alors?
Ben, je crois que c'est le goût, ça remonte à plus loin que ça, c'est le goût de la manipulation, du mensonge, de présenter des personnages qui sont beaucoup plus complexes et voire faux, beaucoup plus complexes que ce que je décris au début. Oui, mentir, bluffer, c'est le cœur de mon intérêt.
Vous qui êtes l'un des plus grands spécialistes du poker en France, est-ce que c'est vrai que la plus mauvaise main, c'est juste 7 et le 2? Quand on part avec ça, c'est impossible de gagner.
Ouais,
c'est pour une amie, ouais.
Ouais, c'est pas terrible. Hein.
C'est pas terrible. C'est confirmé. Allez, un dernier petit extrait.
Toi, mon amour, mon ami. Quand je rêve, c'est de toi, mon amour, mon ami. Quand je chante, c'est pour toi, mon amour, mon ami. Je ne peux vivre sans toi, mon amour.
Huit femmes, Virginie Ledoyen, c'est vraiment votre voix là qu'on entend.
Oui.
Parce que je crois que dans Jeanne et le garçon formidable, vous étiez doublée.
Absolument.
C'est ça.
Ouais.
Et là, c'est vraiment votre voix très jolie d'ailleurs. Et c'est un mélange des genres un peu ce film de François Ozon. Je crois qu'il a beaucoup, beaucoup compté pour vous ce film.
Oui, c'est un film. C'est une pièce de boulevard en fait au départ, Huit femmes. Il en a fait une comédie musicale, un lieu unique. Tout est tourné en studio, huit femmes, pas un homme. Un précurseur.
Ouais. Hein. Ça faisait du bien.
C'était chouette. Je sais pas. C'est pas que ça. Il y avait des hommes parmi l'équipe technique. C'est pas que ça faisait du bien, mais c'est vrai que c'est d'autres rapports qui sont décrits quand soudain il y a pas. Même si l'homme est au cœur du projet, puisque c'est le père.
Mmh. C'est vrai que c'est un grand film de femmes.
C'est un grand film de femmes.
Avec des grandes comédiennes.
Avec des immenses actrices. Avec des immenses actrices, avec une imagerie super belle. Donc oui, c'est un souvenir que j'aime. Enfin, c'est un film que j'aime.
Et c'est jusque-là, je crois, votre plus grand succès au cinéma.
Ah bah d'accord.
Donc, on vous souhaite le même succès avec ce film, Le Mangeur d'âme, dont on va parler dans un instant sur Europe 1. On revient dans deux minutes. À tout de suite.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1. Très bon début de semaine. Bon courage à ceux qui reprennent l'école là aujourd'hui. Hein. Ça y est, il y en a qui ont repris l'école. Paris,
enfants,
Montpellier, Créteil, Versailles, Toulouse. Bon courage. Culture Média vous accompagne jusqu'à 11h avec Thomas Hill et vos invités ce matin.
Oui,
Thomas.
Je reçois ce matin Virginie Ledoyen à l'affiche d'un film adapté de votre deuxième roman, Alexis Lebsker, qui s'appelle Le Mangeur d'âme.
Le dévoreur ne l'invite jamais à rentrer. Il pourrait envahir ton foyer.
On ne vous a pas prévenu du carnage ? Tous ces enfants se sont volatilisés dans des villes voisines.
Ils ont disparu quand ?
Pas 6 mois.
Et voilà, donc là on est dans l'ambiance, hein, tout de suite, l'ambiance sombre de ce thriller, une histoire qui se passe dans un village reculé des Vosges, où il existe une légende locale, un monstre qu'on appelle le mangeur d'âme. Elle existe vraiment cette légende, Alexis Lebsker ?
Alors absolument pas.
Ah,
je l'ai complètement inventé parce que figurez-vous qu'il n'y a pas de légende assez terrifiante dans la vraie vie. Donc, il a fallu que je fasse travailler mes neurones.
Voilà. Ah, il fallait trouver un truc pire encore.
Ouais.
Et alors l'histoire commence par un double meurtre très brutal, un couple qui s'est visiblement entretué. Et alors vous, la commandante de police que vous incarnez, Virginie Ledoyen, elle vient au départ enquêter juste là-dessus.
Oui,
c'est ça le point
elle
de départ.
Elle est parisienne et on l'envoie dans les Vosges, dans un tout petit village, enquêter sur ce crime très curieux, assez inexplicable. Mmh. Et donc elle débarque dans ces paysages très crépusculaires. Elle est la
très beau d'ailleurs.
Ouais, très beau. Mmh. Très beau d'ailleurs. C'est presque un personnage à part entière du film.
Les Vosges.
Les Vosges, ouais. Et elle se retrouve face à des hommes. Il y a que des mecs. Qui évidemment lui battent froid et la prennent un peu pour la parisienne snobinarde et en plus c'est une femme donc évidemment rien ne va. Et elle rencontre un capitaine de gendarmerie qui lui mène une enquête sur des disparitions d'enfants et peut-être que ces deux enquêtes sont liées et ils vont devoir travailler ensemble.
C'est ça, est-ce que les deux enquêtes sont liées? Où sont les enfants? Pourquoi des couples s'entretuent sauvagement? Et quel est le rapport avec la légende locale du mangeur d'âme? Bah voilà, ce sont toutes ces questions qui vont vous occuper, bien vous occuper pendant 1h50. Comment on peut décrire votre personnage, Elisabeth? C'est une femme solitaire, assez mystérieuse, un peu torturée par son passé, comme ça?
En tout cas, moi je la décrirais comme une femme brisée. Elle a vécu un drame personnel des plus violents, des plus insurmontables, qui est la perte de sa fille. Et c'est une survivante en fait. Et elle a pas travaillé depuis le décès de sa fille. Et elle aborde cette enquête comme une. C'est un peu la dernière chance de tenir debout en fait. C'est-à-dire que soit elle y arrive et la vie reprend ses droits, soit elle sombre. Et donc c'est une femme qui à travers cette enquête, parce que ça lui demande beaucoup de, au-delà du courage, mais beaucoup de force que de reprendre justement le travail, va d'une certaine façon réparer. Une culpabilité. Tu m'arrêtes si je me trompe.
Non, pas du tout, mais je suis justement très admiratif. Et ce qui marche justement dans le film, c'est dans l'interprétation de Virginie, au-delà de son talent, c'est sa compréhension du personnage. Ouais. La complexité de cette femme qui lutte et qui est replongée en enfer alors qu'elle veut s'en sortir.
Et c'est pas évident parce que ça demande à jouer quand même un peu en retenue. Et vous le faites extrêmement bien dans ce film. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Il faut expliquer que c'est pas un film d'horreur. Moi, j'aime pas trop ça, les films d'horreur en général. Et ça, c'est un thriller qui emprunte, en fait, à des codes de ce cinéma d'horreur. Donc là, il y a ce côté glacial, comme ça, très sombre, mais sans que l'on voit beaucoup d'horreur. Il y a pas grand chose de gore, finalement, dans le film. Je sais pas s'il y en a davantage dans votre livre, si le livre est plus dur à lire que ce qu'on voit à l'écran, Alexis.
Bah dans le livre, on peut jouer sur la subtilité, c'est-à-dire qu'on suggère des choses. On suggère et on va titiller l'imagination du lecteur, ce qui est évidemment pas possible au cinéma. Donc moi, je joue beaucoup sur le regard des autres et la réaction des autres face à l'horreur, plutôt que de décrire l'horreur elle-même. Ouais. C'est finalement pire.
Et c'est vrai qu'on n'en voit plus trop des films comme ça au cinéma, avec un univers de cinéma de genre, un peu à la Pacte des loups. On pense aussi aux Rivières pourpres. Voilà, si vous avez aimé ces films-là, normalement, vous devriez vous régaler en allant voir Le Mangeur d'âmes qui sort en salle mercredi. Dans un instant, on va parler série avec notre première indispensable, Héloïse Gouin, et puis on va jouer aux Trois Orients.
Bah, vous, Alexis Lebsker, qui êtes un créateur de légende, est-ce que vous connaissez la légende du Trois Orients? C'est le jeu légendaire de Culture Média. Ouais. Vous allez voir, c'est un jeu où il se passe beaucoup de choses et la règle est vraiment pas très suivi. Voilà. On aide beaucoup les auditeurs à gagner et aujourd'hui il y a de très beaux cadeaux à gagner, ça tombe bien. Vous allez tenter de remporter un lot de bandes dessinées 13 Mystery aux éditions d'Argo. Vous recommandez, Sébastien, vous le monsieur BD d'Europe 1. Alors pour participer, vous envoyez Media, M-E-D-I-A-S au 739-21, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS et vous tenterez votre chance. On croise les doigts évidemment pour vous. À tout de suite sur Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et vos invités. Ce matin, Thomas, Virginie Ledoyen qui tient le premier rôle de l'adaptation au cinéma du film d'Alexis Lebsker, Le Mangeur d'âme.
Et alors évidemment, adapter un roman de 350 pages en 1h50, c'est faire des choix, faire des changements. Alexis Lebsker, vous avez été consultant sur ce film, c'est ça?
Oui, j'ai été consultant. Je ne suis pas scénariste, mais j'ai été consultant et je suis vraiment très satisfait de la façon dont le livre a été adapté parce que c'est fidèle à l'esprit.
Ouais. Et c'est pas un peu frustrant quand même, parce que j'imagine qu'il y a forcément des manques dans le film par rapport au livre.
Oui, mais j'étais assez vite ouvert d'esprit dans le sens où j'ai pas écrit Madame Bovary, hein, donc le but c'est de faire un bon film et de pas c'est pas de coller absolument à la réalité. Le but c'est de faire un bon film à partir de ce que je crois être un bon bouquin.
Est-ce que vous l'avez lu ce roman, Virginie Ledoyen?
Après.
Avant de faire après le film, pourquoi?
Parce que quand j'ai rencontré Julien Maury et Alexandre Bustillot, qui sont les metteurs en scène du film, on s'est dit que évidemment il y allait avoir des changements et qu'il fallait quand même qu'on se l'approprie parce que c'est très fort en fait une adaptation et d'essayer de faire sien une histoire qui existait déjà. En plus, les livres par définition c'est que de la projection et de la suggestion mentale, donc on se fait ses propres images. Moi j'avais besoin d'être le vecteur des images de Julien et d'Alexandre. Donc j'ai lu le scénario, on a fait le film. Et
ensuite,
puis, quelques temps après, j'ai lu les livres. Et je trouve vraiment que dans ce que raconte le film, alors évidemment, il y a des choix drastiques hein, qui ont été faits, ouais. Mais je trouve que c'est assez fidèle à ton roman, Alexis.
Oui, oui, c'est vrai. Je crois que les deux scénaristes étaient contents de coller au roman. Bon, moi, j'étais un peu moins. Je trouvais que c'était un peu moins. Ça collait un peu moins, mais voilà. Le but, c'était ça. C'était d'avoir un bon scénario pour faire un bon film. Je crois qu'on a atteint notre objectif.
Allez, on va rester dans cet univers un petit peu glaçant comme ça. Héloïse Goua, vous nous conseillez une série documentaire ce matin qui fait un peu peur.
Oui, c'est ça, on reste dans la joie et la bonne humeur. Est-ce qu'il y a des gens ici qui s'endorment avec les histoires de On de la traconte dans les oreilles?
Ah, j'adore.
Bon, je fais en tout cas aussi partie de cette catégorie de personnes. Et j'ai vérifié sur Internet, écouter des crimes avant de dormir ne fait pas de vous quelqu'un de dangereux. Enfin,
ah
je
bon
crois.
Ah
mais
oui,
ça fait faire des cauchemars.
C'est donc avec un intérêt prononcé que j'ai regardé pour vous une excellente série documentaire sur l'un des faits divers les plus marquant des années 2000.
Une famille du Grand Bornan activement recherchée en Haute-Savoie.
On a des disparitions régulièrement, mais d'une personne seule. De cinq à la fois, c'est tout à fait exceptionnel.
Elles ont quitté en écart sur l'instant aucune hypothèse.
Est-ce que vous avez reconnu de quoi il s'agit?
Ouais, l'affaire Flactif.
Exactement, on est en avril 2003. Xavier Flactif, son épouse et leurs trois enfants ont disparu sans laisser de traces. Dans le chalet savoyard de la famille, à première vue, rien n'a bougé. Seuls des vêtements semblent avoir été emportés à la hâte. Mais quelques semaines plus tard, les policiers découvrent l'horreur.
Des traces de sang effacées dans la cuisine, des traces de sang dans les chambres des enfants.
Et le plus effrayant, c'était des morceaux de dents de lait dans les rails du plancher de la cuisine.
Il ne fait plus de doute dans notre esprit qu'on a affaire à 5 meurtres.
Oui, c'est dur. Hein. 20 ans après les faits, le documentaire intitulé « L'affaire Flactif, une jalousie meurtrière » revient sur le quintuple homicide qui a tenu la France en haleine pendant de longs mois d'enquête. Les 4 épisodes retracent très précisément et chronologiquement cette investigation complexe qui a finalement permis de mener les policiers aux coupables. Comme en témoigne le titre, cette tuerie du Grand Bornan a été motivée par une jalousie absurde de certaines personnes envers Xavier Flactif. C'était un promoteur immobilier qui n'avait pas que des amis dans le village. Je vous en dis pas plus pour vous laisser redécouvrir toute cette histoire dans ce documentaire très bien fait.
Mais justement, qu'est-ce qu'il a de particulier ce doc? Pourquoi est-ce qu'il vous a plu?
Eh bien, les témoignages sont très puissants et émouvants. La première personne à parler, c'est Mario, le fils aîné de Graziella, qui avait 14 ans lorsqu'il s'apprêtait à passer les vacances chez sa mère.
Je fais un peu le tour des fenêtres qui sont habituellement ouvertes pour essayer de rentrer dans le chalet. Je me rends compte que toutes les portes sont fermées, qu'il n'y en a pas une ouverte. C'est vrai que je commence à me demander ce qui est en train de se passer, quoi.
Je m'appelle Mario, j'ai 35 ans et aujourd'hui, il faut que j'aie cette histoire derrière moi.
Et puis le doc se sert aussi de beaucoup d'images d'archives, des interviews de voisins diffusées à la télé à l'époque, des témoignages qui se révèlent particulièrement sordides quand on connaît l'identité des criminels que vous entendez ici.
On m'a dit que son père avait 20 boîtes de nuit en Belgique.
On entend des trucs, vous pouvez pas savoir.
Beaucoup de gens aussi pensent que ça peut être une mise en scène aussi. Voilà, c'est possible aussi quelqu'un qui a fait le carnage aussi là-dedans, on sait pas.
Voilà, là c'est le coupable, le criminel qui parle, qui était interviewé par TF1 dans 7 à 8,
ouais,
exactement.
Incroyable.
Le doc procède aussi à des reconstitutions sonores des écoutes téléphoniques qui font froid dans le dos. Et les autres témoignages sont des sources proches de l'enquête. Elles interrogent très intéressant la place des médias et des rumeurs urbaines dans l'avancement de l'enquête. Voilà, à la hauteur de cette terrible affaire qui semble tout droit sortie d'un film d'horreur, cette série doc se regarde comme un thriller haletant. La réalisatrice Aurore Robin a su trouver le parfait dosage d'émotions avec des épisodes glaçants, fascinants, mais aussi bouleversants.
L'affaire Flactif, une jalousie meurtrière, c'est cette série documentaire qui est à retrouver en intégralité, c'est sur MyCanal, hein,
c'est ça.
Merci beaucoup Héloïse Goua. Après le journal permanent sur Europe 1, nous serons avec un invité inattendu, un certain Salvador au lieu de bosser. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec vos invités ce matin. Thomas Hill, vous recevez la comédienne Virginie Ledoyen à l'affiche du film Le Mangeur d'âme qui est une adaptation de l'écrivain Alexis Lebsker.
Et alors maintenant, c'est l'heure d'accueillir votre invité inattendu. Et aujourd'hui, figurez-vous que nous recevons Salvador au lieu de bosser.
Bonjour à tous, bonjour. Bon voilà,
bonjour.
Je suis venue à 10h30, mais visiblement, fallait venir avant. On m'a pas prévenu.
Pourquoi? Qu'est-ce que...
Bah, je comprends pas. On invite les personnes les plus influentes dans le poker, le roi du bluff, Alexis, voilà, et Virginie Ledoyen, grande actrice dont incarner un personnage brillamment, c'est le métier. Et on m'invite pas, moi, hein? Je sais pas, je comprends pas, toi.
Et pourquoi on vous inviterait, en fait?
Bah, Salvador, Salva Roupi. Ok. C'est moi, voilà. Okay. Mais moi, je suis aussi mytho dans la vie, Thomas. Voilà, j'en fais pas une et je fais croire à tout le monde que je suis débordée.
Comment ça, Salvador, mytho?
Bah, je suis un mytho, un mythomane. Un mec qui raconte des cracks, Thomas, le pote de Patrick Salat, tu vois. Comme Alexis quand il fait semblant qu'il a un full alors qu'il a un 5 tiers 8. Ou comme Virginie quand elle fait semblant d'aimer Leonardo DiCaprio dans le film La Plage. Quoique ça, ça doit pas être très compliqué. Mais bon, 59 films, quand même, hein, Madame le Doyen, elle sait en raconter des salades. Voilà.
Ils racontent pas des salades, c'est leur métier, en fait. Ça n'a absolument rien à voir.
Mais moi aussi, c'est un métier, Thomas. Quand je dis à ma femme que je vais bosser alors que je parie sur les canassons toute la journée, c'est un métier. Quand j'éteins mon téléphone pour roupiller dans les parcs, c'est un métier. Faut pas se faire gauler, Thomas. Hein.
Non, mais ça, c'est pas un métier, Salvador. C'est juste être un glandu, en fait.
Merci à tout le monde de rigoler, c'est super. Ok, c'est quoi être un glandu? Enfin, je veux dire, faut les inventer, les fausses réunions, les faux incidents voyageurs en direction de Sergi Léo sur la ligne C, les faux mercredis tacos au self, hein, Thomas? Ça sort pas de nulle part,
mais
ça.
Mais pourquoi vous allez pas au travail,
ouais,
plutôt?
Bah, parce que j'ai pas envie, Thomas. Voilà, c'est tout ce coup. Voilà, t'as envie d'aller au travail, toi?
Bon,
on est d'accord, on va pas répondre. On est d'accord. Donc, pour avoir l'appel, j'invente des meetings boulot, voilà, c'est trop sympa. Vous voyez, le matin, là, par exemple, bah, je suis en réunion fournisseur avec Virginie Ledouillin et Alexis Lobster, directeur des ventes inter chez Poker Trombone et Agrafe. Donc ma femme, elle est contente pour moi, parce que mes collègues à moi, bah, faut se les farcir, hein, c'est pas DiCaprio.
Ah, mais alors, quels collègues, du coup, Salvador?
Bah, mes collègues de bureau, au travail.
Mais je croyais que c'était des faux collègues.
Comment ça, j'ai pas de collègues?
Bah, vous venez dire que vous faisiez semblant d'aller au travail.
Non, j'ai jamais dit ça, non. Alors, vous arrêtez de raconter n'importe quoi sur les gens, regardez. Attendez, par exemple, c'est quoi ça, Thomas? Regardez la photo là. La photo au pot de départ de Mireille, hein? Bon, alors, appelez ma femme si vous me croyez pas. Allez-y, allez-y.
Non, c'est bon, je vous crois, je vous crois.
Thomas, t'es un bleu. Ok, je t'ai retourné le cerveau en 10 secondes, tu vois. Ah là là, je suis trop fort. Peut-être qu'au lieu du tiercier, je devrais plutôt faire du poker. Alexis, vous pensez quoi? Je suis pas mal, non? J'en bluffe, c'est moi. Nouvelle identité. Je pourrais peut-être me faire un nouveau passeport et avoir une nouvelle femme aussi. Tranquille.
Ouais, et puis finir en prison aussi. Non. Tranquille.
Ah, maintenant, parce qu'avec mes faux millions au poker, je prends un faux bateau et je me fais la malle aux Seychelles, Thomas. J'appelle mon pote Jeff Bezos. Oh là là, nouvelle vie. J'en bluffe Jeff Bezos dans l'espace. Bam, bam, bam.
Bon. Non, c'est lunaire. Hein. Merci, merci, Salvador. Et merci, Philippine Delair, que vous pouvez retrouver en spectacle. Ce week-end, vous serez au Mans, Philippine.
Oui, tout à fait.
Très bien. Donc, ça, vous savez ou pas?
Changement de voix. La Comédie du Mans.
Ah, c'est une nouvelle personne qui débarque. Bienvenue à vous. Allez, c'est l'heure de jouer maintenant avec les auditeurs aux 3 ou rien. 3 bonnes réponses. Ou sinon, vous ne gagnez rien.
Et ce matin, vous jouez pour tenter de remporter un très beau cadeau. Les 3 derniers tomes de la bande dessinée 13 Mystery. Notamment le tome 14, Traquenard et Sentiments.
Le meilleur.
Disponible aux éditions d'Argo, que vous recommandez, Sébastien.
Bah oui, j'en parle.
Vous, le spécialiste BD, vous recommandez ça à tous les auditeurs d'Europe 1. Intrigue, suspense. Vous allez adorer cette saga culte qui fête cette année, c'est...
Oh là, au moins.
40 ans.
40 ans.
J'aurais dit
40 ans.
Ça fait 40 ans que ça existe.
Ouais.
Et bon, et alors nous... J'ai rien d'autre à dire là-dessus. J'étais à sec. Et alors nous accueillons Régis. Bonjour Régis.
Bonjour Jean-Pierre.
Il est aussi bronzé que Jean-Pierre Foucault.
Ça
hein,
fait
donc
plaisir.
Non, excusez-moi, excusez-moi.
Je ne suis que son joker. quelques semaines. Vous habitez où, Régis?
Écoutez, je suis à Paris dans le 7e.
D'accord, très bien.
Paris chic.
Et qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Écoutez, conférencier, ça c'est clair. Deuxième profession,
mythomane.
Enchanté.
Et dans une autre vie, allez, puisque Jean-Pierre, justement, je fais un clin d'œil, dans une autre vie, il y a 25 ans, j'étais le chauffeur de salle de l'émission 5 à soirée.
Non, c'est pas vrai.
Oh, c'est génial.
Merci, mon petit Thomas, vous aviez même pour 10 ans du côté de Nancy.
Exactement. Eh ben, bravo. Et alors, vous appeliez pour avoir Jean-Pierre Foucault au téléphone. Je suis désolé, ça n'est que
mais
moi.
Je vous en prie.
Bon, alors, c'est fou ça. Vous étiez chauffeur de salle de sacrée soirée. Ouais. C'est vous qui mettiez l'ambiance.
On en avait des sacrés quand même. Sacrées belles émissions. Puis surtout Jean-Pierre, qui est un homme.
Charmant.
Voilà.
Ah bah, alors ça, on est tous d'accord là-dessus.
Ouais.
Bon, alors Régis, ce matin, j'ai 3 extraits sonores pour vous. Vous allez entendre à la suite un chanteur, un extrait de film et un générique télé. Et puis vous aurez une minute maximum pour me donner vos réponses. Allez, c'est parti.
Virginie le Doyen l'a déjà.
Ouais.
Je saurais pas dire, mais...
Tu ne m'as toujours pas dit ton nom.
Pourquoi je vous dirais mon nom?
Parce que je veux savoir qui je suis en train de regarder.
Qu'est-ce que vous dites?
Je veux savoir à qui je parle.
C'est pas ce que vous avez dit.
Qu'est-ce que t'as compris?
Ça, c'est ce qu'on dit quand Thomas va faire son jardin, par exemple. Oui. Bah, vous maîtrisez pas trop la chose.
Merci. Merci, c'est très désagréable. Alors, Régis, je vous écoute. Quelles sont vos réponses?
Je crois que j'en ai 2 sur 3.
Ah, c'est pas mal. Alors, dites-moi.
Oui, alors j'ai le premier, bien sûr, Julien Clerc.
Mmh. Bravo.
Bien sûr. Le dernier, l'émission que j'aurais aimé animer dans une autre vie, qui s'appelle En Terre Inconnue, c'est ça, avec
Lopez. Rendez-vous en Terre Inconnue. Bien joué, avec Frédéric Lopez. Alors, maintenant, c'est Raphaël de Casabianca.
Au milieu, c'est pour moi un petit peu inaudible dans mes oreilles de 62 ans. Enfin bon, en même temps, j'ai pas tout à fait suivi. Voilà.
C'est un film qui faisait un peu peur, hein.
Qu'est-ce qu'on fait quand on a peur?
Des cris.
Quand on a peur, on...
On pousse des cris, mais en anglais.
Oui. Mais en anglais. En anglais, ça donne quoi?
Ah ouais, faut être bilingue dans ce jeu également.
Comment on dit un cri en anglais?
To.
Crier en anglais.
C'est un verbe régulier, ça, hein?
Ouais. Frame.
Allez, sur la traduction de Google. Crier en anglais.
Comment dit une glace en anglais?
Une glace. Bien joué, Alexis. Une glace en anglais, c'est comment, Régis? Vite, il reste quelques secondes.
Mais pas du tout, ma chère amie, je vous écoute avec plaisir, mais pas du tout, je sais pas.
Non.
Ah non. Oh, vous déclarez forfait.
Non, mais c'est pas possible, vous avez trouvé ça quand même. C'est le film d'horreur le plus connu quasiment.
Comme je ne regarde pas les films d'horreur.
Et on vous poussait des cris terrifiants, il y avait ce masque très clair.
Avec l'air qu'on m'a redit.
Il en a marre qu'on lui donne déjà plus de sang.
Vous en mettez
pas. Coubertin, le principal, c'est de participer.
C'est ce que vous avez fait ce matin. Merci Régis de nous avoir appelé. À très bientôt et puis vous rappelez quand vous voulez.
C'était Scream, hein, le film.
Oui, c'était Scream. La bonne réponse. Non, ça vous dit toujours rien, Régis?
Non, pas du tout.
D'accord.
Par contre, si vous partez en vacances encore cet été, que Jean-Pierre, je ne peux pas, je laisse mon numéro au standard.
Bien sûr, on transmet au RH.
C'est transmis, Régis. Merci de nous avoir appelé. À très bientôt.
Et si vous aussi, vous voulez jouer comme Régis, tentez votre chance, vous vous inscrivez par SMS au 739-21. Vous envoyez Media, M-E-D-I-A-S, 2 fois 75 centimes, plus coût du SMS.
Encore un qui veut piquer ma place. dans un instant, c'est Sébastien Bordeneuve qui va prendre le micro pour nous parler d'une petite BD. On parle de quoi ce matin?
Pagnol en BD.
C'est anniversaire. Ouh, sacrilège. Allez, à tout de suite, Jean.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et vos invités ce matin. Thomas, vous recevez Virginie Ledoyen qui joue le premier rôle du film Le Mangeur d'âme qui sort mercredi. Oui. Et ce film est une adaptation du roman Le Mangeur d'âme d'Alexis Lebsker qui est avec nous également jusqu'à 11h.
Et alors dans ce film, Virginie Ledoyen, vous retrouvez Sandrine Bonnaire presque 30 ans après la cérémonie de Claude Chabrol, c'est ça?
Ouais.
Vous n'aviez jamais rejoué ensemble tous les deux?
Non, on n'avait jamais rejoué ensemble, on s'était... quelquefois aperçu, mais vraiment, on ne s'était pas revu, vraiment. Et c'est une actrice merveilleuse, ouais. C'est une personne tellement chouette, quoi. Donc, c'était un vrai bonheur de la retrouver, bien que dans un film sombre, certes,
oui.
Mais on s'est beaucoup amusé aussi. Ça peut sembler curieux, mais on s'est beaucoup amusé.
Elle a un rôle assez costaud, elle, de psy, hein,
rôle,
c'est ça
ouais, elle est psy, ouais. Elle a un rôle très, très, très costaud qu'elle joue avec beaucoup de... C'est une vraie joueuse de poker.
Ouais, c'est ça. Elle était dans votre livre également, ce personnage, il est dans votre livre.
Oui, il y a une adaptation, ça fait partie des choses qui ont un peu bougé, mais c'est pour notre plus grand bonheur, parce qu'effectivement, c'est une immense actrice, comme Virginie, et voilà, je suis très fier d'avoir ce casting-là.
Allez, on va parler un peu BD maintenant avec Sébastien Bordeneuve. Et aujourd'hui, vous vouliez évoquer un auteur dont on a adoré les films, les livres, les pièces de théâtre. Et pour vous, ça fonctionne aussi en BD, c'est Marcel Pagnol.
Oui, alors c'est pas moi qui le dis hein, que ça fonctionne, c'est le succès de la collection Marcel Pagnol en BD qui a été lancée en 2017. Ils ont tous sorti de Marcel Pagnol. Première parution, Jean de Florette. 20 BD sont sortis depuis 400 000 ventes. Le dernier en date, eh ben, c'est Fanny. Et le mois prochain, le domaine. Ça sera César. Et puis, je viens de recevoir un SMS de la fille du Puisatier qui m'écrit rentrée septembre, il y aura une BD, La fille du Puisatier.
Ah, bizarre.
Voilà, tout ça, c'est édité chez Grand Angle.
Elle est sympa, la fille du Puisatier.
Elle est super sympa. Elle est super
il est beau le dessin.
Oui, bah tenez, regardez, je pouvais le regarder.
On vous fait passer un merci.
On vous passer la BD. Ces BD sont ensoleillées, efficaces et surtout fidèles à l'univers du truculent dramaturge d'Aubagne parce que elles sont surveillées comme de la bouillabaisse sur le feu par Nicolas Pagnol, le petit-fils né un an avant la disparition de Marcel, un acharné de travail. Et vous savez quoi? Eh ben, en fouillant Nicolas Pagnol, eh ben, il a trouvé.
Il a trouvé quoi? Ah oui, parce que vous vouliez nous présenter une deuxième BD, c'est ça. Elle s'appelle Gabi ou La Belle et l'Argent, publiée chez Michel Lafon. Alors, c'est quoi cette fois-ci?
Alors, une pièce de théâtre inédite, taper, dactylographier, relier. Écoutez donc Nicolas Pagnol.
Alors en fait, cette pièce est totalement inédite. Je l'ai retrouvée en faisant un état des lieux des archives de mon grand-père. Il faut savoir que du vivant de ma grand-mère, elle ne voulait pas que ses archives sortent de chez elle. Donc là, on a un grand projet de musée dans la ville de Halo, à côté de Marseille, et je suis tombé sur cette pièce. Elle est un peu grivoise, elle ne ressemble pas du tout à l'idée qu'on peut avoir de l'œuvre de Marcel. Drôle, un peu méchante. On s'est dit, oui, le roman graphique, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, parce que ça va nous permettre de resserrer un peu l'intrigue et de pouvoir présenter cette pièce sous le meilleur jour.
Le papier.
Voilà. Vous imaginez quand même l'émotion, une pièce de théâtre inédite de Marcel Pagnol, découverte par son propre petit-fils. Alors personne ne sait exactement quand est-ce qu'elle a été écrite, cette pièce, d'autant plus qu'en la lisant, on dirait un peu du Audiard, donc c'est assez déstabilisant, ça ne correspond pas à l'image qu'on a de Marcel. Nicolas Pagnol pense qu'elle a été écrite entre 52 et 54, parce qu'il parle d'un modèle de caméra très spécial, il parle de Nice Matin aussi, donc ça a aidé à dater. Pagnol, à l'époque, a connu deux échecs au théâtre, du coup il se dit, la troisième, je ne vais peut-être pas la sortir tout de suite, il ne va jamais la sortir, et il va plutôt se remettre à écrire. Il va écrire La gloire de mon père, c'est pas mal. Donc là, Gabi ou La belle et l'argent, c'est l'histoire d'une belle dame qui sponsorise sa vie oisive et pleine de faste par ses admirateurs, mais un mauvais placement fait qu'elle est ruinée. Il va falloir qu'elle se marie avec un très bon parti, c'est un peu l'intrigue. Et à un moment donné, dans le texte, le père de Gabi dit à l'ami de Gabi « Mes respects à votre mère ». Elle répond « Elle a l'honneur de ne pas vous connaître ». Il réplique « Oui, mais il a peut-être oublié mon nom, mais dites-lui que Gros Lapin Russe pense toujours à Bigoudi du Frisotin ». Elle vous la rendra. Donc voilà, il y a des rebondissements, de la faconde, du bon mot. Donc il y a Fanny chez Grand Angle et Gabi ou La belle et l'argent chez Michel Lafon. Vous êtes deux, j'ai deux BD, vous vous arrangez entre vous, je vous les offre. Voilà.
Mais quelle générosité, Sébastien Bourdin, exceptionnel. Merci Sébastien, qu'on retrouve avec Héloïse Gouin d'ailleurs dans La Voix et Livre de Nicolas Caro. C'est le samedi de
dimanche,
de 19h à 20h sur Europe 1.
Culture Média, les dernières minutes sur Europe 1 avec Thomas Hill et vos invités ce matin. Thomas, Virginie Ledoyen et Alexis Lexker.
Ils étaient tous passés jusque-là.
10h52.
Et alors, Alexis Lexker, tous les auteurs qu'on reçoit ont généralement une discipline très stricte, avec des horaires imposés pour écrire chaque jour. C'est vrai, ils nous ont tous dit ça ici. Mais alors, j'ai vu que pas du tout.
Non, pas du tout. Moi, mon maître mot, c'est le plaisir. Je dois avoir du plaisir à écrire. Je dois être content de retrouver mon ordinateur et mes personnages et créer mon univers. Je me force pas. Si c'est pour aller bosser, je vois pas l'intérêt.
Et vous pouvez écrire n'importe où?
Oui. À peu près n'importe où, oui.
À peu près n'importe où.
Oui, non, je me réserve quand même 2-3 jokers. T'inquiète comme vous êtes.
Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être au bureau, tranquillement sur une chaise.
C'est exactement ça. Je peux être assis dans le train, dans un café.
Rattrapez-vous, Thomas.
C'est important de savoir qu'il peut être assis n'importe où. Et vous n'avez jamais eu l'envie d'écrire, Virginie Ledoyen?
Non. J'adore lire. Ouais. J'adore lire. Alors justement, j'aime tellement lire que je crois que c'est très inhibant.
Et même la réalisation, ça vous a jamais tenté?
Le métier absolu dans le cinéma, je trouve, la mise en scène.
Ouais.
Pourquoi pas, je m'interdis rien, mais j'aime quand même beaucoup, beaucoup être actrice, en fait.
Ouais.
Donc, et puis être metteur en scène, c'est pas... Il faut vraiment avoir quelque chose à raconter ou une façon de le raconter très chevillé au corps que je n'ai pas pour l'instant.
Allez, pour terminer, on va faire un petit tour dans ma foire aux questions. Alors, ce sont des questions aléatoires. On va voir sur quoi vous allez tomber et est-ce que vous allez réussir surtout à répondre. C'est parti. Est-ce que vous êtes plutôt l'un et l'autre organisé ou bordélique?
Organisé,
tous les deux.
Ouais.
Impressionnant. Dans quel autre métier vous auriez pu exceller? Exceller, attention. Vous avez fait 50 métiers
ici.
C'est compliqué, là.
Joueur de poker. Mais quoi d'autre? Est-ce qu'il y a un autre métier sur lequel...
Je ne sais pas si j'aurais excellé, mais j'aurais adoré être avocate.
Atlas, quel aliment détestez-vous?
Chou-fleur.
J'en sais rien, j'aime tout.
Vous aimez tout?
Je ne suis pas très sucre.
Vous préférez parler ou écouter?
Écouter.
Les deux.
Avez-vous un talent caché? Je sais pas, la cuisine, le jonglage, les imitations.
Moi, j'imite très bien le noir des années 70. Tu vois, le mec, il te dit, tu déconnes complètement.
Eddie Murphy, quoi.
Huggy, les bons tuyaux.
Là, ça limite au niveau talent.
C'est pas mal comme talent caché.
Une imitation.
Jacques Chirac.
Très mauvaise pour les accents, les imitations, tout ça.
Alors, quelle est, selon vous, la plus belle ligne de votre CV, Virginie Ledoyen?
Bah, je dirais qu'elle est, elle est pas dans mon CV, elle est ma vie personnelle, intime, donc elle est pas dans mon CV.
Oh, c'est trop facile, ça.
Ah bah, ouais.
C'est, ouais. Bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon,
mais
c'est
pas. Merci, quand même.
Ça nous a bluffé. Hein.
Du coup, maintenant, je sais plus quoi dire. Non, moi, je dirais qu'elle reste à écrire.
Oh, oh, pas mal aussi.
Quel poète.
Citez-moi une qualité que vous appréciez chez les autres.
La bienveillance.
Bienveillance.
L'humour.
Merci. C'est mal. Citez-moi.
Et l'humilité, bien sûr.
Où aimeriez-vous aller un jour? Un endroit où vous n'êtes jamais allé, vous aimeriez aller un jour?
Moi, j'aimerais aller faire un safari au Kenya ou en Afrique du Sud.
Ah, pas mal, ça.
Non, moi, au Japon.
Très bien, très bien, très bon
safari.
Safari au Japon, très bien, on organise
ça. Il y a moins d'éléphants, c'est sûr.
Et pour terminer, est-ce que vous avez une idole, l'un et l'autre?
Wow, non, pas trop, je suis pas trop, je vénère pas trop les gens comme ça, non.
Non, une idole...
J'ai vu que vous en aviez une, étant jeune.
Ah oui, Sophie Marceau.
Ouais.
Sophie Marceau, absolument, qui était vraiment l'actrice. Et puis une amie qui s'appelle Claire, mais que personne ne connaît, mais qui est un peu mon idole. Mais vous ne la connaissez pas.
Et ben, on la salue, très bien. Merci à tous les deux d'être venus ce matin nous présenter cet excellent film Le Mangeur d'âme, et puis le livre également, qui est toujours édité chez Michel Lafon. Il a quelques années, ce livre, maintenant.
Il a 3 ans.
3 ans, ouais. Voilà, c'est votre deuxième roman, Alexis Lebsker, et l'adaptation en film est très très bien réussie, avec Virginie Ledoyen, avec Julien Maury aussi, avec Alexandre Bustillo et Alexandre Bustillo.
Et avec Paul Ami.
Avec Paul Ami,
formidable,
voilà.
Acteur.
C'est lui que je cherchais, qui est excellent dans son rôle d'enquêteur. Merci à tous les deux d'être venus ce matin.
Merci beaucoup de nous avoir reçus.
Demain, à votre place dans Culture Média, le cinéma français est en forme. Alors on en parle dans Culture Média. Nous accueillerons André Dussolier et le réalisateur Yvan Calberac pour le film N'avoue jamais.
Et on passe l'antenne à l'ami Pascal Pro. Bonjour Pascal.
Jamais, n'avoue jamais. Tu l'es. Vous savez qui chantait ça?
Bien sûr.
Attends,
Salvador Adamo, c'est pas ça?
Non.
Pas du tout. Oh là là.
Qui chantait N'avoue jamais? Oh là là. Il avait en plus un restaurant dans Paris qui était presque l'ancêtre du karaoké.
Guy Mardel.
Exactement. Guy Mardel.
Je sais pas, ça vient de moi. Merci l'oreillette.
Quoi?
Ça va? Merci, Pascal, vous êtes en forme?
Et vous?
Bah oui, très.
Dites-moi, hein, parce que la semaine dernière, c'était Monsieur Foucault qui était là.
Bah oui, j'ai vu votre bromance, tous les deux.
Ouais, Michel Drucker, ça c'était très sympa. J'étais un peu intimidé.
Ah
vous
oui,
voyez, je faisais pas de bêtises au passage d'antenne.
Oui, enfin,
on n'allait pas jusqu'à
11h05.
J'étais un peu dans mes petits chaussons.
Dans les petits souliers.
Les petits souliers.
On dit plutôt les souliers, oui.
Bon. Les petits chaussons. Ouais. Vous savez que mon avenir est en chaussons, hein, si vous me permettez. Mais non, c'est autre chose.
Charentaise.
Et qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, avec les enfants? Qu'est-ce que vous avez fait?
J'ai fait du surf, figurez-vous, avec les enfants.
Du surf?
Ouais. Je sais, on n'a pas l'impression comme ça.
Mais vous étiez où pour faire du surf?
Enfin, j'ai essayé de faire du surf.
Mais vous aviez une combinaison quand même, parce qu'il fait froid.
C'est très frais, bien sûr.
C'était à l'Aqua Boulevard.
Avec une bonne combinaison. Ah.
Mais je me demandais pourquoi vous aviez les cheveux mouillés ce matin.
Ça n'a rien à voir, c'est parce que je ne les ai pas lavés.
C'est parce que, effectivement, vous avez fait du surf toute la semaine.
Ils en sont de long. Enfin, oh j'ai essayé, là. Hein, j'ai réussi à monter 2-3 fois sur la planche.
On sortira les vidéos dans quelques jours.
Non, mais ça c'est formidable, vous savez. Je pense que vous devez être un bon père. Moi je trouve qu'il y a quelque chose de parfait chez vous. Je ne vous connais pas beaucoup, mais
vous voulez que je vous adopte?
J'ai l'impression, voilà un jeune homme qui est beau, qui paraît intelligent, qui est bon père de famille, etc.
Et gendre idéal.
Et je fais la cuisine, Pascal.
Je me demande. Non.
Ouais. Et le jardin, il est très bon jardinier.
Oui,
aussi.
Jardin, c'est pas fou.
Mais bon. C'est tout vert.
Mais c'est incroyable. Il a un côté gendre idéal,
bien
ce vrai. Garçon.
Oui, c'est ça.
Jamais
c'est
un mot plus haut que l'autre.
Enfin, que ça détonne par rapport à vous. C'est je me permets.
Moi, effectivement, quand j'arrivais dans une famille, j'étais le gendre non souhaité. Le gendre non idéal.
Allez, bon, après,
bon, allez, 10h59, ça nous fait plaisir de vous revoir.
Bonne émission, Pascal.
Bonne émission.